Que Dieu vous bénisse. On va prier. Merci Père, oh Dieu, pour ce cantique, oh Dieu. Et c'est vraiment notre prière établie sur nos cœurs, Père éternel, ton empire. Règne en nous, Père éternel, et que nous soyons, oh Dieu, des ambassadeurs, des témoins de Christ, Père éternel, dans ce monde qui se meurt. Les temps, ô Dieu, sont compliqués, Père, mais nos yeux vers toi sont tournés, Père, et notre attente est grande, Père éternel, pour guider nos pas sur les sentiers de la droiture et de la justice. Merci, Père, ô Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous. C'est vrai, en marchant ici-bas, nous foulerons des sentiers douloureux, mais nous avons aussi, Père, ô Dieu, des jours heureux, et nous te bénissons pour toutes ces choses, Père éternel, ô Dieu. Nous voulons nous souvenir de notre frère Terence, Père, pour le consoler, consoler toute la famille, Père éternel, oh Dieu. Sois, oh Dieu, celui qui les soutient et soutient toute la famille en ces heures sombres. Nous bénissons ton nom. Maintenant, conduis-nous pour la suite et sois notre guide. Sois, Père éternel, celui qui nous instruit et illumine notre intelligence au nom de Jésus-Christ. Amen. La fois passée, nous avons commencé à parler de ce que Élie et Élisée, la marche qu'ils ont suivie, pour l'un c'était l'enlèvement et pour l'autre c'était le retour à la vie pour témoigner de Christ et prêcher son nom. Donc on avait vu qu'on partait de Gilgal. Après Gilgal, c'est Bethel où ils sont arrivés. Et puis Jéricho. Et ensuite, ils ont traversé le Jourdain. Et c'est de l'autre côté que Élie va être élevé, va être enlevé, pardon. Et Élisée va revenir de l'autre côté. Bien. Aujourd'hui, on va continuer sur la même lancée, mais avant d'aller plus loin, on va parler de l'importance des alliances. Nous avons vu que Gilgal était le lieu de la circoncision de la nouvelle génération, celle qui était née dans le désert, alors que leur père était rebelle à Dieu et qui sont tous morts dans le désert, sauf Josué et Caleb. C'était les deux personnes qui sont sorties de l'Égypte et qui sont rentrées dans la terre promise. Et nous avons aussi vu que c'est à Gilgal qu'ils mangèrent la Pâque. Donc il y a eu deux choses à Gilgal. Il y a eu la circoncision de la jeune génération. Et ils ont mangé la Pâque, la première Pâque en terre promise. C'était les deux éléments. Nous verrons de quoi exactement ça consiste. Bien. C'est quoi la Pâque? Pâque signifie passer par-dessus. On peut lire dans Exode 12. On va se lever. On va lire Exode 12. Versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Au verset 6, « Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. » Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. On va prier. Merci Père oh Dieu pour cette portion des Écritures que nous avons lue. Maintenant, nous en appelons à ta grâce Père pour venir nous instruire, nous enseigner. Et placer ces choses en nous, Père éternel, oh Dieu, et surtout que cela puisse produire en nous, ô Dieu de miséricorde, le fruit de l'Esprit Père éternel, ô Dieu. Répands ton esprit au milieu de nous et assiste chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, donc, nous voyons que au premier et deuxième verset que nous avons lu, l'Éternel dit à Moïse, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Et quand on lit ça, on voit directement que Dieu va leur donner un calendrier nouveau. Ce n'est plus le calendrier égyptien, mais c'est le calendrier que Dieu leur donne pour commencer une nouvelle vie, une nouvelle marche. Et donc, les compteurs de temps sont remis à zéro pour Israël. Ils ne vont plus marcher, comme je dis, selon le calendrier égyptien, mais plutôt selon le calendrier de Dieu. C'est le mois où la Pâque fut instituée. Donc, le mois où la Pâque fut instituée, c'est le premier mois. Et naturellement, c'est la première année. C'est la première année de leur marche. Bien. Donc, premier mois, première année, c'est le Pâques, ou plutôt, ils sont partis de Ramsès. La Pâque constitue en fait le point de départ de leur marche. Ceci est important parce que pour chacun de nous, la Pâque est le point de départ. On va voir ce que signifie encore, ce que signifie un peu plus en profondeur la Pâque. Donc, c'est le mois où la Pâque fut instituée et c'est le mois qui est considéré comme le premier mois de l'année. Et la Pâque va avoir lieu au 14e jour. Ça veut dire au deuxième sabbat, même si le sabbat a été institué dans le désert. On peut prendre ça comme tel, comme référence. Le deuxième sabbat du premier mois, c'est là qu'ils vont manger la Pâque. C'est une nouvelle ère qui commence pour eux, c'est un nouveau départ. Bien. Au verset 6, vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Bien. On voit que lors de la Pâque, un agneau dans chaque maison va être immolé. Et l'agneau devait être sans défaut. Très, très important. Je crois qu'il devait être, il devait être âgé d'un an. Donc, nous voyons que le départ, quand il quitte Ramsès, ils vont suivre pour entrer dans la terre promise. Il y aura 42 étapes. Ces étapes sont très importantes parce qu'il y a une réalité beaucoup plus profonde qui est cachée derrière. Donc, 42 étapes, je vais dire donc, de Ramsès à Gilgal, il y a 42 étapes.
Et ces 42 étapes ont une signification, comme je le disais. Donc, la Pâque, c'est le jour où le sang de l'agneau dans chaque maison des enfants d'Israël est versé avant d'entreprendre la marche pour quitter l'Égypte. 42 étapes pour arriver à Gilgal. Et nous verrons que ceci,
peut-être pas aujourd'hui, mais ceci a une signification importante
Parce que la période de gestation de la femme est de 42 semaines à partir de ces dernières règles. 42. Ça veut dire que la marche des enfants d'Israël, c'est une marche qui va aboutir à la naissance, puisqu'après 42 semaines, vous pouvez lire ça dans, sur Google, vous pouvez voir qu'il y a effectivement 42 semaines pour la femme. Si tout va bien, normalement, c'est 42 semaines. À partir... des dernières règles de sa grossesse. Donc ça, ça fait 42 semaines. Et ici, il y a une naissance. Donc la traversée du désert et l'entrée pour arriver à Gilgal va correspondre à une naissance. La naissance du peuple d'Israël. On reviendra probablement sur ça une autre fois, mais pour vous montrer juste qu'il y a, quand Dieu fait les choses, il ne les fait pas au hasard. Il y a des raisons profondes pour ça. Bien. Donc, les étapes de voyage vers la terre promise sont aux enfants de Dieu ce que les semaines de grossesse à partir des dernières règles sont à la femme. Immoler, c'est tuer en sacrifice à une divinité. Le sang de l'agneau va être versé, actant ainsi la mort de l'agneau. La mort de l'agneau. On reviendra sur cette mort parce qu'aujourd'hui, ça sera beaucoup plus, on tournera beaucoup plus autour du sang. Bien, lisons le verset 11, toujours d'Exode. Quand vous les mangerez, il s'agit de l'agneau mâle, sans défaut, âgé d'un an. On peut aussi prendre un chevreau. C'est ce que, si vous lisez un peu plus haut, c'est ce dont il est parlé. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. C'est vraiment le début, la Pâque est le début d'une marche. C'est le début d'une marche. Et s'il n'y a pas de Pâques dans ta vie, il n'y a pas de début de marche avec le Seigneur. Continuons. Donc, vous les mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. La Pâque correspond à passer par-dessus vous. Ça veut dire épargner. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, la Pâque nous parle du sang. Il nous parle de la mort de l'agneau pour la délivrance du peuple d'Israël, du joug égyptien. Et c'est là... Cette délivrance s'est faite par le sang. J'insiste beaucoup, par le sang. Le sang versé de l'agneau est donc une puissance de délivrance. Qu'importe le péché dans lequel tu es lié. Le sang est une puissance. C'est une victoire. Lorsqu'il est appliqué, ça veut dire que la maison ne va pas être frappée de mort. Bien. Dans la marche vers la terre promise, ils vont célébrer une fois la Pâque. Donc, si on considère, on a l'Égypte. Je vais peut-être faire ici. Bon, c'est pas terrible. Hein? Oui. J'espère qu'il y en a encore assez. Donc, on a, si on regarde bien, il y a l'Égypte, il y a le désert, et il y a la terre promise. En Égypte, ils vont avoir la Pâque, c'est le point de départ. Dans les déserts, ils vont avoir aussi, ils vont célébrer la Pâque, c'est dans les déserts de Sinaï. Et dans la terre promise, la première Pâque va être célébrée à Gilgal. Et c'est là qu'ils vont être circoncis. Donc, première Pâque en Égypte, première célébration dans le désert, et la troisième fois qu'ils vont célébrer la Pâque, c'est à Gilgal. Gilgal, comme nous l'avons vu, c'est le lieu de circoncision. Circoncision, ça veut dire qu'on coupe le surplus de peau. C'est une blessure. Et donc, il y a du sang qui coule. La circoncision, c'est de nouveau le sang. La Pâque, c'est le sang. La circoncision, c'est le sang. Et le sang est... Comme je disais, c'est capital. Comme la Pâque, la circoncision parle aussi du sang. Et la première fois que nous rencontrons, où on parle de la circoncision dans la Bible, c'est avec Abraham. Nous reviendrons un peu plus tard, si on a le temps, pour parler de la circoncision d'Abraham. Donc, avec la circoncision, Dieu est entré en alliance avec Abraham et sa postérité. Et en même temps, le sang, si vous lisez dans la Bible, le sang, c'est le signe de l'alliance. Le sang, c'est la vie et en même temps, c'est le signe. C'est le signe. Et remarquez, il n'y a que les mâles qui sont circoncis. Nous reviendrons là-dessus pour vous montrer qu'il y a des réalités cachées dans cela. Donc, la signature de l'alliance est faite par le sang. Le sang, c'est la vie. Et le sang est au cœur de la chrétienté. Pour sortir de l'Égypte, c'est par le sang. Et pour entrer dans la terre promise, c'est par le sang. Et naturellement, tout au long, entre l'Égypte et la terre promise, c'est aussi par le sang. On verra qu'ils ont sacrifié beaucoup d'animaux dans les déserts. Donc, du début à la fin, c'est le sang. C'est très important. Du début à la fin, c'est le sang. Et le sang C'est une substance chimique, mais qui contient beaucoup de réalités. Lorsque vous allez à l'hôpital, souvent, on commence par les sangs, l'analyse des sangs. Parce que là-dedans se trouvent, les maladies peuvent s'y cacher. Mais on reviendra peut-être une autre occasion à cela. Donc, c'est par le sang versé de l'agneau mâle et appliqué à la porte lors de la Pâque que Dieu épargna des morts chaque maison des enfants d'Israël et assura la libération et la protection du peuple. Le sang versé de l'agneau témoignait de la mort de l'agneau. Tout celui qui n'avait pas appliqué le sang voyait la mort entrer chez lui. Celui qui n'avait pas cru pour appliquer le sang, la mort frappait sa maison. Et tout celui qui l'appliquait avait la vie sauve. Ça veut dire que le sang a deux réalités. Lorsque vous voyez le sang, ça parle et de la mort et de la vie. Mort pour celui qui ne croit pas dans le sang et vie pour celui qui y croit. En quittant l'Égypte, Dieu les invitait à mourir à l'Égypte pour naître et vivre en lui et par lui dans la terre promise. Donc, la chose, c'est que les enfants d'Israël, il y a eu la Pâque, la mort de l'agneau, mais eux-mêmes devaient mourir à l'Égypte. Et on sait que l'Égypte est le type du monde. Et ensuite, rentrer dans la terre promise, c'est pour ceux qui avaient appliqué le sang. Donc, il y a la mort et la vie. Seulement, au milieu ici, on a vu que les enfants d'Israël, à cause de leur désobéissance, ils sont morts. Le fait de sortir ne suffit pas. Il faut entrer. Si tu ne fais que sortir, tu vas mourir dans les déserts. Si tu ne crois pas en ce que Dieu dit, tu vas arriver dans la terre promise. Tu n'arriveras jamais à la terre promise. Du début à la fin, c'est par la foi. Je reprends. Entrer en alliance, tu dois savoir que c'est la mort.
Ah, parce qu'ils avaient... Ça, c'est une alliance. Hein. On verra ça. Circoncision, Pâques.
Le sang, c'est le signe de l'alliance. Donc, celui qui veut entrer en alliance doit savoir que c'est la mort qui rend l'alliance possible. Et c'est la vie qui rend l'alliance effective et vivante par le sang.
Donc, toute alliance, on reviendra là-dessus, toute alliance vous amène, un, à la mort, ensuite, à la vie. Celui qui ne meurt pas dans l'alliance voit cette alliance caduque.
On reviendra là-dessus.
Je suis en train juste de poser les bases.
Christ est l'agneau pascal qui devait mourir et ressusciter. Si Christ n'était pas ressuscité, alors notre foi serait vaine. Parce qu'il serait mort comme tout homme. Et ça, vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 15, 14. Ça veut dire que celui qui veut vivre doit mourir. Car il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de mort. Et celui qui veut donner la vie doit mourir. On voit ça en Égypte. D'un côté, il y a les premiers-nés égyptiens frappés de mort. De l'autre, il y a la vie des premiers-nés d'Israël épargnés. Seul le sang de l'agneau faisait la différence entre les deux. Seul le sang de l'agneau faisait la différence entre les deux. Les enfants d'Israël n'étaient pas meilleurs que les Égyptiens. Mais le sang a fait la différence. On va lire Apocalypse 1, verset 5. Vous pouvez lire le verset au-dessus. Et de la part de Jésus-Christ, donc Apocalypse, c'est la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, celui qui est ressuscité, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. La délivrance des péchés ne se fait que par le sang. J'insiste beaucoup, par le sang. On va lire Hébreux 13, à partir du verset 20. Quel est Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Regardez, c'est par le sang qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs de brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Et c'est lui qui nous rend, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous rend capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Ça veut dire que la place de l'homme là-dedans n'y est pas. C'est lui qui nous rend capables. Et la prière de l'apôtre, et fasse en vous ce qui lui est agréable. Si vous faites une œuvre agréable, agréable au Seigneur, ne venez surtout pas vous vanter que moi j'ai fait ceci. C'est lui qui fait tout en nous.
Bien.
Donc, il est très très important qu'on soit conscient de cela. Et c'est un principe divin. Il faut que quelque chose ou quelqu'un meure pour que quelque chose ou quelque chose d'autre vive. C'est tout le principe des sacrifices, la mort étant le sacrifice suprême.
Et le sacrifice est au cœur de l'alliance.
Celui qui est dans une alliance et ne veut pas se sacrifier ou ne veut pas mourir à lui-même, met en alliance cette alliance, met en péril, parlons, cette alliance. L'alliance exige les sacrifices et l'alliance de vie exige le sang, c'est-à-dire la mort. Et paradoxalement, la vie vient par le sang. Donc, la mort et la vie sont intimement liées. Si vous voulez, le mariage est une alliance, si vous voulez que votre mariage vive, il faut que chacun accepte de mourir à lui-même. Le problème, c'est que personne dans son bon sens n'aime mourir. On tient tellement à sa personne et à ses acquis, voilà les grands problèmes. Non seulement du mariage, mais dans toute relation. L'homme doit mourir, c'est-à-dire qu'il doit se séparer de lui-même, de sa semence pour donner la vie. C'est la mort. C'est exactement la même chose pour la femme. Son cycle est un cycle de vie et de mort. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Si Dieu nous le permet, peut-être qu'on en parlera. De même, la femme qui est enceinte fait un avec l'enfant dans son sein. Aussi, doit-elle mourir. Ça veut dire, lorsqu'il doit donner naissance, il va se séparer de l'enfant. Et la séparation est une mort. Pour preuve, à la naissance, on coupe le cordon ombilical, c'est-à-dire les liens physiques avec la mère. Et l'enfant qui naît doit mourir à la vie intra-utérine, de la mer pour vivre sa vie. De nouveau, il y a toujours la mort et la vie. Et dans ce processus, le sang est omniprésent. Chaque fois qu'il y a du sang versé, il y a soit la vie, soit la mort. On meurt à une vie pour naître à une autre vie et ne meurt que ce qui est en vie.
J'espère que vous comprenez.
Et cela nous montre l'importance de la Pâque et aussi de la circoncision. Mais revenons un peu sur la circoncision. On n'ira pas très loin parce que le temps est fort avancé. C'est par le sang versé de la circoncision des mâles que Dieu entre en alliance avec Abraham et sa postérité, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Mais qu'en était-il des femmes? Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que Dieu n'est traité d'alliance qu'avec les hommes? Toute femme mariée selon les prescriptions de Dieu entrait en alliance avec Dieu par son mari. Et pour vous le montrer, on va voir le cas d'Abraham.
Je vais effacer.
Bon. Apparemment, il n'y a plus de produits là. Derrière où? Merci. Donc, nous avons. Merci, monsieur. Merci.
Donc, nous avons Abraham. Et de l'autre côté, nous avons Sarai. Ils étaient mariés. Dieu a traité alliance avec Abraham, pas avec Sarah.
Nous reviendrons peut-être à une autre occasion pour montrer les droits de naissance de l'homme. Donc, pour entrer en alliance avec Abraham, la première chose que Dieu va faire, il va changer le nom d'Abraham. Il va lui donner le nom d'Abraham. Et Dieu, si on regarde bien, Dieu s'appelle, dans certains milieux, c'est Jéhovah ou Jéhovah.
Hein? Quand vous écrivez Jéhovah, il y a AH.
Dieu, dans certains milieux, on l'appelle aussi Yah.
Yahweh, Yah dedans.
AH. Eli en anglais, on dit aussi Elijah.
Donc, si on écrit son nom, vous retrouvez AH.
Et qu'est-ce que Dieu va faire?
Puisque c'est Dieu ici, Jéhovah Yahweh, Dieu va venir s'introduire dans
Abraham.
C'est très très important.
Pourquoi? Parce que notre corps sont le temple du Saint-Esprit. Il va venir habiter dedans.
Donc ici, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller habiter,
il va habiter en Abraham.
Donc, pour entrer en alliance avec Abraham, Dieu va mettre son nom dans Abraham.
Abraham va mettre son nom là-dedans.
Et les noms changés changent complètement l'identité d'Abraham. Complètement.
On sait, si vous lisez dans la Bible, il est parlé Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous.
Et ici, Dieu va
entrer en alliance avec Abraham.
Et c'est seulement lorsque Dieu entre en Abraham que Abraham va connaître la gloire,
parce que le fils va promis va naître après. Donc, avec ce changement de nom, Dieu va complètement transformer la vie d'Abraham pour donner naissance à fils promis. Je disais, le changement de nom est capital parce que les noms cachent des réalités beaucoup plus profondes. On en a déjà parlé très rapidement il y a quelques temps, mais on y reviendra un jour lorsqu'on parlera des changements de noms. On verra dans la Bible que Dieu souvent change les noms des. Il a changé les noms de beaucoup de gens. Et on voit ça dans Apocalypse qu'il va donner aussi un nouveau nom. Donc,
non seulement Dieu
transforme Abraham,
mais il va aussi transformer Sarai.
Et
Sarai, son nom va être de nouveau changé. Sarah va devenir Sarai. Sarah, comment, je ne sais pas faut dire ça, mais Sarah. Quoi qu'il en soit, il y a un HA qui intervient comme dans Abraham. Ça veut dire que Dieu entre aussi en alliance avec Sarah. Et c'est là que Sarah va devenir fertile.
Je vais très lentement pour qu'on voit comment sont les choses. Donc, Dieu va s'attacher à Sarah et va complètement changer, transformer la vie de Sarah en la rendant fertile. Donc, Dieu dans Abraham, Dieu dans Sarah et Abraham dans Sarah, tous unis et le miracle de la vie va s'accomplir. Et c'est uniquement par Sarah que le fils de la promesse devait venir. Ce qui nous montre que chacun, que ce soit l'homme, que ce soit sa femme, chacun est amené à porter le fruit de l'esprit pour manifester Christ dans sa vie. Ceci est très important. L'homme et sa femme doivent s'attacher à Dieu. Dieu en chacun d'eux fera que le mariage devienne un havre d'amour et de paix et le lieu de la fertilité selon Dieu. Donc,
on voit Sarah qui était déjà assez âgée. Hein?
Il avait déjà dépassé la ménopause de 40 ans.
Qui pourrait encore parier que Sarah pouvait avoir un enfant?
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il a fallu que Dieu entre en scène pour que Sarah puisse avoir le fils promis. C'est Dieu en vous qui change votre vie. Par Abraham, Sarah est entrée en alliance avec Dieu. Voyez-vous la grâce d'avoir un mari comme Abraham qui aime et qui craint Dieu? Sarah bénéficiait de par ce fait de la couverture, de la protection et des bénédictions de Dieu par Abraham. La grâce et la gloire de Dieu remplissaient désormais le foyer. Vous voyez, Sarah va chasser Agar et son fils. Parce qu'il ne voulait pas que son fils hérite, son fils qui était le fils de la promesse. Et les bénédictions du fils de la promesse ne sont pas pour n'importe qui. Donc, le mariage est une alliance de vie scellée par l'union de l'homme et de sa femme. L'homme est la couverture, la protection, la sécurité pour sa femme. Et le sang est au cœur de cette union. C'est par le sang que cette union est scellée. C'est pourquoi les signes de la virginité étaient exigés dans l'ancien temps. Aujourd'hui, la société est tellement corrompue que trouver une fille vierge, un homme vierge, il faut se lever tôt. Tellement tout dans la société vous incite à la débauche et à l'impudicité. C'est donc par le sang versé que l'homme entre en alliance avec sa femme. Et là où il y a le sang répandu, il y a la mort. De nouveau, celui qui entre dans le mariage doit être conscient que la mort l'attend et qu'il doit mourir s'il veut vivre. Je le répète, celui qui entre dans le mariage doit être conscient que la mort l'attend et qu'il doit mourir s'il veut vivre. Le mariage est le lieu par excellence de la crucifixion. Et mourir en Christ est la garantie d'une résurrection en Christ. Romains 6, on va prendre Romains 6. À partir du premier verset. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin des lois. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Celui qui meurt en Christ, il ressuscite avec lui et il vivra. En Christ, la vie est plus forte que la mort. On va s'arrêter là. On va continuer parce qu'il y a encore trop de choses à dire. On va s'arrêter là, on continuera la fois prochaine et la fois prochaine, on verra exactement, on lira Éphésiens 5, 16 et 33. Ce sont les termes de l'alliance entre l'homme et la femme et on verra comment l'apôtre agence ces choses. Que Dieu vous bénisse. Prions. Bien-aimé Père, nous te disons merci pour le sang versé. Car c'est par ce sang, Père éternel, ô Dieu, qu'aujourd'hui l'alliance a été établie entre l'homme, entre Dieu et l'homme. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment te remercier, Père, pour la grâce que tu nous as faite, Père éternel, de te connaître. C'est vrai, nous ne sommes pas encore ce que nous devons être, mais nous croyons à la transformation que tu produis en nous, Père éternel, ô Dieu. Que tu daignes agir en chacun de nous, Père éternel. Là où les choses sont encore floues, Père éternel, rends-les claires pour nous. Là où l'ignorance, ô Dieu de miséricorde, nous met en prison, Père, libère-nous, Père éternel, pour nous éclairer et vivre, Père éternel, ô Dieu, selon, ô Dieu, la vie nouvelle. Merci pour l'alliance, Père éternel, ô Dieu. Et merci, Père éternel, pour Christ, Père éternel, ô Dieu. Lui qui a accepté volontairement la mort, Père éternel, afin que nous nous soyons réconciliés avec les pères. Alors que, ô Dieu, nous avançons dans cette vie, Père éternel, plein de surprises et de réalités parfois qui nous dépassent. Puisse ta grâce nous aider, Père éternel, à garder l'équilibre dans les Écritures. Car c'est là que nous trouvons, Père éternel, notre force par le Saint-Esprit, Père éternel, ô Dieu. Que là où, Père éternel, ô Dieu, le péché nous a liés, que ta délivrance nous soit accordée, Père éternel, ô Dieu, pour avoir une vie qui t'exalte et qui t'honore, Père. Maintenant, Père, raccompagne-nous, Père éternel. Garde chacun de nous sous ta protection, Père éternel, ô Dieu, et aide-nous à méditer ces choses, Père éternel, à approfondir ces choses, Père éternel, car au-delà de ce qui peut être dit, c'est le Saint-Esprit qui instruit, Père éternel. Instruit chacun de nous, Père éternel, et conduis-nous, ô Dieu, dans la voie de la sagesse et de la lumière. Au nom de Jésus-Christ, je te loue et te bénis. Amen.